Germaine de Staël, Delphine, partie 5.
Fragment de quelques feuilles écrites par Delphine pendant son voyage. Premier fragment. Ce 7 décembre 1791. Je suis seule, sans appui, sans consolateur, parcourant au hasard des pays inconnus, ne voyant que des visages étrangers, n'ayant pas même conservé mon nom, qui pourrait servir de guide à mes amis pour me retrouver. C'est à moi seule que je parle de ma douleur. Ah, pour qui fut aimé, quel triste confident que la réflexion solitaire. J'ai fait 30 lieues de plus aujourd'hui. Je suis de 30 lieues plus éloignée de Léonce. Comme les chevaux allaient vite, les arbres, les rivières, les montagnes, tout s'enfuyait derrière moi. Et les dernières ombres du bonheur passé disparaissaient sans retour. Inflexible nature, je te l'ai redemandé, et tu ne m'as point offert ces traits. Pourquoi donc, avec un des nuages que le vent agite, n'as-tu pas dessiné dans l'air cette forme céleste? Son image était digne du ciel, et mes yeux, fixés sur elle, ne se seraient plus baissés vers la terre. Le malheur m'accable, et cependant, je sens en moi des élans d'enthousiasme qui m'élèvent jusqu'au souverain Créateur. Il est là, dans l'immensité de l'espace. Mais aimé, fait arriver jusqu'à lui. Aimé, ô mon Dieu, dans la fortune même où je suis plongé, je te remercie de m'avoir donné quelques jours de vie que j'ai consacrés à Léonce. Isaure dort là, devant moi, et sa mère a tant souffert. Et moi aussi, qui me suis chargé d'elle, j'ai déjà versé tant de pleurs. Cher enfant, que t'arrivera-t-il? Quel sera ton sort un jour? Que ne peux-tu repousser la vie? Et loin de la craindre, tu vas au-devant d'elle, avec tant de joie. Ah, comme elle t'en punira! Pauvre nature humaine, quelle pitié profonde je me sens pour elle! Dans la jeunesse, les peines de l'amour, et pour un autre âge, que de douleurs encore. Deux vieillards se sont approchés ce soir de ma voiture pour implorer ma pitié. Ils avaient aussi leur cruelle part des maux de la vie, mais leur âme ne souffrait pas. Un rayon du soleil leur causait un plaisir assez vif, et moi, qui suis poursuivi par un chagrin amer, je n'éprouve aucune de ces sensations simples que la nature destine également à tous. Je suis jeune cependant. Ne pourrais-je pas parcourir la terre, regarder le ciel, prendre possession de l'existence qui m'offre encore tant d'avenir? Non, les affections du cœur me tuent. Quel est-il ce souvenir déchirant qui ne me laisse pas respirer? Sur quelle hauteur, dans quel abîme le fuir? Ah, quelle est cruelle la fixité de la douleur! N'obtiendrai-je pas une distraction, pas une idée, quelque passagère qu'elle soit, qui rafraîchisse mon sang pendant au moins quelques minutes? Dans mon enfance, sans que rien fût changé autour de moi, la peine que j'éprouvais cessait tout à coup d'elle-même. Je ne sais quelle joie sans motif effaçait les traces de ma douleur et je me sentais consolée. Maintenant, je n'ai plus de ressort en moi-même. Je reste abattue. Je ne puis me relever. Je succombe à cette pensée terrible. Mon bonheur est fini. Que ne donnerais-je pas pour retrouver les impressions qui répandent tout à coup tant de charme et de sérénité dans le cœur? La puissance de la raison, le courage, la résignation, la patience, sentiment de deuil, cortège de l'infortune. Le plus léger espoir fait plus de bien que vous. Fragment 2. Le réveil, quel moment pour les malheureux. Lorsque les images confuses de votre situation vous reviennent, on essaie de retenir le sommeil. On retarde le retour à l'existence. Mais bientôt les efforts sont vains et votre destinée tout entière vous apparaît de nouveau, fantôme menaçant, plus redoutable encore que les premiers moments du jour, avant que quelques heures de mouvement et d'action vous habituent, pour ainsi dire, à porter le fardeau de vos peines. Ce jour, qui ne peut rien changer à mon sort puisqu'il est impossible que je voie Léonce, ces froides heures qui m'attendent et que je dois lentement traverser pour arriver jusqu'à la nuit, m'effraie encore plus d'avance que pendant qu'elle s'écoule. La nature nous a donné un immense pouvoir de souffrir. Où s'arrête ce pouvoir? Pourquoi ne connaissons-nous pas le degré de douleur que l'homme n'a jamais passé? L'imagination verrait un terme à son effroi. Que d'idées, que de regrets, que de combats, que de remords ont occupé mon cœur depuis quelques jours. Le génie de la douleur est le plus fécond de tous. Quel chagrin amer j'éprouve en me retraçant les mots les plus simples, les moindres regards de Léonce. Ah, qu'il y a de charme dans ce qu'on aime! Quelle mystérieuse intelligence entre les qualités du cœur et les séductions de la figure! Quelles paroles ont jamais exprimé les sentiments qu'une physionomie touchante et noble vous inspire! Comme sa voix se brisait quand il voulait contenir l'émotion qu'il éprouvait! Quelle grâce dans sa démarche, dans son repos, dans chacun de ses mouvements! Que ne donnerais-je pas pour le voir encore passer sans qu'il me parlât, sans qu'il me connût? Ce monde, cet espace vide qui m'entoure, s'animerait tout à coup. Il traverserait l'air que je respire, et pendant ce moment, je cesserais de souffrir. Ô Léonce, quelle est ta pensée maintenant? Nos âmes se rencontrent-elles? Tes yeux contemplent-ils le même point du ciel que moi? Quelles bizarres circonstances font un crime du plus pur, du plus noble des sentiments? Suis-je moins bonne et moins vraie? Ai-je moins de fierté, moins d'élévation dans l'âme, parce que l'amour règne sur mon cœur? Non, jamais la vertu ne m'était plus chère que lorsque je l'avais vue. Mais loin de lui, que suis-je? Que peut-être une femme chargée d'elle-même et devant seule guider son existence sans but, son existence secondaire, que le ciel n'a créée que pour faire un dernier présent à l'homme. Ah, quel sacrifice le devoir exige de moi! Que j'étais heureuse dans les premiers temps de mon séjour à Bellerive. Je ne sentais plus aucune de ces contrariétés, aucune de ces craintes qui rendent la vie difficile. Le temps m'entraînait comme s'il m'eût emporté sur une route rapide et unie dans un climat ravissant. Toutes les occupations habituelles réveillaient en moi les pensées les plus douces. Je sentais au fond de mon cœur une source vive d'affection tendre. Je ne regardais jamais la nature sans m'élever jusqu'aux pensées religieuses qui nous lient à ses majestueuses beautés. Jamais je ne pouvais entendre un mot touchant, une plainte, un regret, sans que la sympathie ne m'inspirât les paroles qui pouvaient le mieux consoler la douleur. Mon âme, constamment émue, me transportait hors de la vie réelle, quoique les objets extérieurs produisissent sur moi des impressions toujours vives. Chacune de ces impressions me paraissait un bienfait du ciel, et l'enchantement de mon cœur me faisait croire à quelque chose de merveilleux dans tout ce qui m'environnait. Hélas, d'où sont-ils revenus dans mon esprit ces souvenirs, ces tableaux de bonheur? M'ont-ils fait illusion un instant? Non, la souffrance restait au fond de mon âme. Sa cruelle serre ne lâchait pas prise. Les souvenirs de la vertu font jouir encore le cœur qui se les retrace. Les souvenirs des passions ne renouvellent que la douleur. Fragment 3. Je suis bien faible. Je me fais pitié. Tant d'hommes, tant de femmes même, marchent d'un pas assuré dans la route qui leur est tracée et savent se contenter de ces jours réguliers et monotones, de ces jours tels que la nature en prodigue à qui les vend. Et moi, je les traîne, seconde après seconde, épuisant mon esprit à trouver l'art d'éviter le sentiment de la vie, à me préserver des retours sur moi-même, comme si j'étais coupable, et que le remords m'attendit au fond du cœur. J'ai voulu lire. J'ai cherché les tragédies, les romans que j'aime. Je trouvais autrefois du charme dans l'émotion causée par ces ouvrages. Je ne connaissais de la douleur que les tableaux tracés par l'imagination, et l'attendrissement qu'ils me faisaient éprouver était une de mes jouissances les plus douces. Maintenant, je ne puis lire un seul de ces mots, mis au hasard peut-être par celui qui les écrit. Je ne le puis sans une impression cruelle. Le malheur n'est plus, à mes yeux, la touchante parure de l'amour et de la beauté. C'est une sensation brûlante, aride. C'est le destructeur de la nature, séchant tous les germes d'espérance qui se développent dans notre sein. Combien il est peu d'écrits qui vous disent de la souffrance tout ce qu'il faut en redouter. Oh, que l'homme aurait peur s'il existait un livre qui dévoila véritablement le malheur, un livre qui fit connaître ce que l'on a toujours craint de représenter, les faiblesses, les misères qui se traînent après les grands revers, les ennuis dont le désespoir ne guérit pas, le dégoût que n'amortit point l'âpreté de la souffrance, les petitesses à côté des plus nobles douleurs, et tous ces contrastes et toutes ces inconséquences qui ne s'accordent que pour faire du mal et déchirent à la fois un même cœur par tous les genres de peine. Dans les ouvrages dramatiques, vous ne voyez l'être malheureux que sous un seul aspect, sous un noble point de vue, toujours intéressant, toujours fier, toujours sensible. Et moi, j'éprouve que dans la fatigue d'une longue douleur, il est des moments où l'âme se lasse de l'exaltation et va chercher encore du poison dans quelques souvenirs minutieux, dans quelques détails inaperçus, dont il semble qu'un grand revers devrait au moins affranchir. Ah, j'ai perdu trop tôt le goût du bonheur. Je suis trop jeune encore. Mon âme n'a pas eu le temps de se préparer à souffrir. Une année, une seule année, est-ce donc assez ? Oh mon Dieu, les désirs de l'homme dépassent toujours les dons que vous lui faites. Cependant, je ne conçois rien dans mon enthousiasme par-delà les félicités que j'ai goûtées. Je ne pressens rien au-dessus de l'amour. Rendez-le-moi malheureuse. Une telle prière n'est-elle pas impie ? Ne dois-je pas la retirer avant qu'elle soit montée jusqu'au ciel ? Fragment 4. Je me suis remise à donner exactement des leçons à mon Isaure. J'avais tort envers elle. Je n'ai pas assez cherché à tirer des consolations de cette pauvre petite. Elle-même, cette affection me reste encore. Pourquoi n'essaierais-je pas d'y trouver quelque soulagement ? Hélas, l'enfance fait peu de bien à la jeunesse. On éprouve comme une sorte de honte d'être dévoré par les passions violentes, à côté de cet âge, innocent et calme. Il s'étonne de vos peines et ne peut comprendre les orages nés au fond du cœur quand rien autour de vous ne fait connaître la cause de vos souffrances. Pauvre Isaure, que ferais-je pour la préserver de ce que j'ai souffert ? Que lui dirais-je pour la fortifier contre la destinée ? Me résoudrais-je à ne pas l'initier aux nobles sentiments qui nous placent comme dans une région supérieure et nous préparent longtemps d'avance pour le ciel, pour notre dernier asile? To be or not to be, that is a question. Être ou ne pas être, voilà quelle est la question, disait Hamlet, lorsqu'il délibérait entre la mort et la vie. Mais développer son âme ou l'étouffer, l'exalter par des sentiments généreux, ou la courber sous de froids calculs. N'est-ce pas une alternative presque semblable ? Cependant, quel sera le destin d'Isaure ? Souffrira-t-elle autant que moi ? Non, elle ne rencontrera pas Léonce. elle ne sera pas séparée de lui, insensée que je suis. Le malheur s'arrêtera-t-il à moi? D'autres peines ne saisiront-elles pas les enfants qui vont nous succéder? Les êtres distingués voudraient adapter le sort commun à leurs désirs. Ils tourmentent la destinée humaine pour la forcer à répondre à leurs vœux ardents. Mais elle trompe leurs vains essais. Ô Dieu, que voulez-vous faire de ces âmes de feu qui se dévorent elles-mêmes? À quelle pompe de la nature les destinez-vous pour victimes? Quelle vérité, quelles leçons doivent-elles servir à consacrer? Dites-leur un peu de votre secret. Un mot de plus, seulement un mot de plus. Pour prendre mon courage et pour arriver au terme sans avoir douté de la vertu. Mon Dieu, que dans le fond du cœur, un rayon de lumière éclaire encore celle qui a tout perdu dans ce monde. Fragment 5. Ce jour m'a été plus pénible encore que tous les autres. J'ai traversé les montagnes qui séparent la France de la Suisse. Elles étaient presque en entier couvertes de frimas. Des sapins noirs interrompaient de distance en distance l'éclatante blancheur de la neige, et les torrents grossis se faisaient entendre dans le fond des précipices. La solitude en hiver ne consiste pas seulement dans l'absence des hommes, mais aussi dans le silence de la nature. Pendant les autres saisons de l'année, le chant des oiseaux, l'activité de la végétation anime la campagne, lors même qu'on n'y voit pas d'habitants. Mais quand les arbres sont dépouillés, les eaux glacées, immobiles, comme les rochers dont elles pendent, quand les brouillards confondent le ciel avec le sommet des montagnes, tout rappelle l'empire de la mort. Vous marchez en frémissant au milieu de ce triste monde qui subsiste sans le secours de la vie et semble opposer à vos douleurs son impassible repos. Arrivé sur la hauteur d'une des rapides montagnes du Jura et m'avançant à travers un bois de sapins sur le bord d'un précipice, je me laissai aller à considérer son immense profondeur. Un sentiment toujours plus sombre s'emparait de moi. De quel faible mouvement, me disais-je, j'aurais besoin pour mourir? Un pas et c'en est fait. Si je vis, à quel avenir je m'expose? Un pressentiment qui ne m'a jamais trompé me dit que de nouveaux malheurs me menacent encore. Chaque jour ne s'effacera-t-il pas du souvenir de Léonce, tandis que moi, solitaire, je vais conserver dans mon sein toute la véhémence des sentiments et des douleurs. Je me livrai à ces réflexions, penché sur le précipice, et ne m'appuyant plus que sur une branche que j'étais prête à laisser échapper. Dans ce moment, des paysans passèrent. Ils me virent vêtue de blanc au milieu de ces arbres noirs. Mes cheveux détachés et que le vent agitait attirèrent leur attention dans ce désert. Et je les entendis vanter ma beauté dans leur langage. Faut-il avouer ma faiblesse? L'admiration qu'ils exprimèrent m'inspira tout à coup une sorte de pitié pour moi-même. Je plaignis ma jeunesse, et m'éloignant de la mort que je bravais il y avait peu d'instants, je continuai ma route. Quelque temps après, les postillons arrêtèrent ma voiture pour me montrer, de la hauteur de Saint-Sergue, l'aspect du lac de Genève et du pays de Vaud. Il faisait un beau soleil. La vue de tant d'habitations et des plaines encore vertes qui les entouraient me causa quelques moments de plaisir. Mais bientôt, je remarquai que j'avais passé la borne qui sépare la Suisse de la France. Je marchais pour la première fois de ma vie sur une terre étrangère. Ô France, ma patrie, la sienne, ces jours délicieux que je ne devais jamais quitter. France, dont le seul nom émeut si profondément tous ceux qui, dès leur enfance, ont respiré ton air si doux et contempler ton ciel serein. Je te perds avec lui. Tu es déjà plus loin que mon horizon, et comme l'infortuné Marie Stuart, Il ne me reste plus qu'à invoquer les nuages que le vent chasse vers la France pour leur demander de porter à ce que j'aime et mes regrets et mes adieux. Me voici jeté dans un pays où je n'ai pas un soutien, pas un asile naturel. Un pays dont ma fortune seule peut m'ouvrir les chemins et que je parcours en entier de mes regards sans pouvoir me dire « Là-bas, dans ce long espace, j'aperçois du moins encore la demeure d'un ami. » Eh bien, je l'ai voulu. J'ai choisi cette contrée où je n'avais aucune relation. Je n'ai pas cherché ceux qui m'aiment. Ils auraient pu me demander d'être heureuse. Heureuse, juste ciel. Léonce, Léonce, elle est seule dans l'univers, celle qui t'a quittée. Mais toi, les liens de la société, les liens de famille te restent, et bientôt Mathilde aura sur ton cœur les droits les plus chers. Infortunée que je suis, si j'avais été unie à toi, j'aurais connu tout le bonheur des serments les plus passionnés et les plus purs. Ton enfant eût été le mien. Ah, le ciel est sur la terre, on peut épouser ce qu'on aime. Ce sort devait être le mien, et je l'ai perdu. Fragment 6. Me voici à Lausanne, je suis dans une ville. Oh, je ne m'y sens pas seule, moi qui n'ai plus que la nature pour société. Impatiente de la revoir, hier je me promenais sur une hauteur d'où je découvrais d'un côté l'entrée du Valais et vers l'autre extrémité la ville de Genève. Il y avait dans ces tableaux une grandeur imposante qui soulageait ma douleur. Je respirais plus facilement. Je demandais un consolateur à ce vaste monde qui me semblait paisible et fier. Je l'appelais ce consolateur céleste par mes regards et mes prières. Je croyais éprouver un calme qui venait de lui. Mais tout à coup, j'ai entendu sonner 7 heures. Ce moment, jadis si doux pour moi, ce moment qui m'annonçait sa présence, passe maintenant comme tous les autres, sans espoir et sans avenir. À cette idée, les sentiments pénibles de mon cœur se sont ranimés plus vivement que jamais, et j'ai hâté ma marche, ne pouvant plus supporter le repos. Je suis descendue vers le lac. Un vent impétueux l'agitait. Les vagues avançaient vers le bord comme une puissance ennemie prête à vous engloutir. J'aimais cette fureur de la nature qui semblait dirigée contre l'homme. Je me plaisais dans la tempête. Le bruit terrible des ondes et du ciel me prouvait que le monde physique n'était pas plus en paix que mon âme. Dans ce trouble universel, me disais-je, une force inconnue dispose de moi. Livrons-lui mon véritable cœur, qu'elle déchire, mais que je sois dispensée de combattre contre elle. Et que la fatalité m'entraîne comme ces feuilles détachées que je vois s'élever en tourbillon dans les airs. Vers le soir, l'orage cessa. Je remontais silencieusement vers la ville. J'entendais de toutes parts, en revenant, le chant des ouvriers qui retournaient dans leur ménage. Je voyais des hommes, des femmes, de diverses classes, se hâtaient de se réunir en société. Et si j'en jugeais d'après l'extérieur, partout il y avait un intérêt, un mouvement, un plaisir d'exister qui semblait accuser mon profond abattement. Peut-être qu'en effet ma raison est troublée. Un caractère enthousiaste et passionné ne serait-il qu'un premier pas vers la folie? Elle a son secret aussi, la folie. Mais personne ne le devine, et chacun la tourne en dérision. Non, mes plaintes sont injustes, non, je veux en vain me les dissimuler. Ce n'est pas pour mes vertus que je souffre, c'est pour mes torts. Ai-je respecté la morale et mes devoirs dans toute leur étendue? Il n'y avait rien de vil dans mon cœur, mais n'y avait-il rien de coupable? Devais-je revoir Léonce chaque jour, l'écouter, lui répondre, absorber pour moi seul toutes les affections de son cœur? N'était-il pas l'époux de Mathilde? M'était-il permis de l'aimer? Ah Dieu! Mais tant d'êtres mille fois plus condamnables vivent heureux et tranquilles. Et moi, la douleur ne me laissait pas respirer un seul instant. L'ai-je donc mérité? L'être suprême mesure peut-être la conduite de chaque homme, d'après sa conscience. L'âme qui était plus délicate et plus pure est punie pour de moindres fautes, parce qu'elle en avait le sentiment et qu'elle l'a combattue, parce qu'elle a sacrifié sa morale à ses passions. Tandis que ceux qui ne sont point avertis par leur propre cœur vivent sans réfléchir et se dégradent sans remords. Oui, je m'arrête à cette dernière pensée. Mes chagrins sont un châtiment du ciel. J'expie mon amour dans cette vie. Ô mon Dieu, quand aurai-je assez souffert? Quand sentirai-je au fond du cœur que je suis pardonné? Une idée m'a poursuivie depuis 2 jours, comme dans le délire de la fièvre. Mille fois j'ai cru sentir que je n'étais plus aimée de Léonce. Je me suis rappelé toutes les calomnies qui avaient été répandues sur moi pendant les derniers temps que j'ai passés à Paris. Et une rougeur brûlante m'a couvert le front quand je me représentais Léonce entendant ses indignes accusations. Oh, que la calomnie est une puissance terrible! Je me repens de l'avoir bravée. Léonce, Léonce, maintenant que je suis séparée de vous, défendez-moi dans votre propre cœur. Combien de moments de ma vie que je trouvais douloureux se présentent maintenant à moi comme des jours de délices. Pourquoi me suis-je plainte tant que Léon s'habitait près de moi? Ah, si je retournais vers lui, si je me rendais encore un moment de bonheur, j'en suis sûre, son premier mouvement en me voyant serait de me serrer dans ses bras et mon cœur a tant besoin qu'une main chérie le soulage. Je sens dans mes veines un froid qui passerait à l'instant même où ma tête serait appuyée sur son sein. Si je sais mourir, pourquoi ne pas le revoir? Aurait-il le temps de blâmer celle qui tomberait sans vie à ses pieds? Quand je ne serai plus, il ne verrait en moi que mes qualités. La mort justifie toujours les âmes sensibles. L'être qui fut bon trouve, quand il a cessé de vivre, des défenseurs parmi ceux-mêmes qui l'accusaient. Et Léonce, lui qui m'a tant aimé, me regretterait profondément. Mais dois-je troubler encore son sort et celui de sa femme? Non, il faut rester où je suis. Ces cruelles incertitudes renaîtront sans cesse dans mon cœur si je n'élève pas entre l'espérance et moi une barrière insurmontable. Suivrai-je le dessein que j'ai confié à Madame d'Hervin? En aurai-je la force? Et puis-je me croire permis de recourir à cet état sans les opinions ni la foi qu'il suppose?